Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leurs méthodes et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute.
Bonjour tout le monde, merci d'écouter The Bold Way. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sir Paul Smith. Est-ce qu'il faut que je dise Sir Paul Smith ou juste Paul Smith? Je préfère Paul Smith, mais oui, j'ai été fait chevalier il y a 23 ans maintenant. Alors, où est-on aujourd'hui, Paul? Nous sommes dans mon quartier général à Londres, dans le quartier de Covent Garden. Et nous sommes au quatrième étage d'un ancien entrepôt qui a été construit en 1900. Très typique de Londres, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce quartier était très similaire au Halles à Paris ou à Las Ramblas à Barcelone. Plein de marchés de fruits et légumes et de fleurs. On a 180 personnes qui travaillent dans ce bâtiment et je suis au dernier étage, dans cette pièce intéressante. Tu pourras probablement mieux la décrire que moi, il y a beaucoup d'objets. Oui, c'est un peu comme la caverne d'Ali Baba. Hein. Est-ce d'où te vient ton inspiration, tous ces cadeaux du monde entier? Oui, je suis très privilégié. Ce que je reçois par la poste tous les jours est très intéressant. Ce matin, j'ai reçu deux choses du Japon et une des États-Unis. Et puis, c'est de notoriété publique et c'est un petit jeu avec tes clients, non? Oui, ça a commencé dans les années 80 et je pense que c'est grâce à ce genre d'interview que les gens savent que s'ils m'envoient quelque chose, ça va être apprécié. J'adore ça, et si l'objet est accompagné d'une adresse, en général, je renvoie une carte postale pour remercier la personne. C'est un genre de communication qui est très agréable. Donc, qui es-tu, Paul Smith? Alors, je suis quelqu'un qui est dans ce business depuis très longtemps. J'ai commencé au début de ma vingtaine dans ma ville d'origine, Nottingham. À la base, quand j'étais adolescent, je rêvais de devenir cycliste professionnel. C'est pour ça que tu peux voir énormément de maillots de course, de vélos et des casques et des magazines sur le cyclisme. Pourquoi es-tu si passionné de course? J'avais 12 ans quand j'ai commencé. Mon père avait acheté ce qui s'appelait un vélo de course, qui est différent d'un vélo de ville. Le monsieur qui a vendu le vélo à mon père était membre du club de cyclisme local et il lui a dit « Tu sais, si Paul veut venir avec nous et tous les gars du club, on sort tous les samedis et dimanches. » J'ai dit « Oui, ça a l'air intéressant. » Là, j'avais 11 ou 12 ans. Et c'était intéressant parce que tout à coup, je me suis retrouvé avec un groupe de gens beaucoup plus âgés que moi. La plupart avaient la vingtaine, trentaine ou quarantaine. Et je regardais autour de moi et il n'y avait pas de parents. Waouh, c'est très très intéressant parce que normalement, j'allais partout avec mes parents. Et un des gars m'a encouragé à commencer à participer à des courses à l'âge de 12 ans. Et donc, j'ai commencé les compétitions en tant qu'écolier, puis en junior, et puis j'ai bêtement pensé que je pouvais en vivre et devenir cycliste professionnel, mais je n'aurais jamais pu faire ça. Je n'étais pas assez bon pour être honnête, mais sans le savoir, à l'époque, j'ai appris le travail d'équipe, la camaraderie, peut-être aussi un peu d'esprit de compétition, mais pas vraiment en fait. J'ai plus appris à travailler en groupe et à capitaliser sur les forces et les faiblesses des uns et des autres. Et ça m'a énormément aidé dans ma carrière.
Ok, cool.
Alors j'ai deux autres questions et puis on va jouer à un petit jeu. Qu'est-ce que Paul Smith représente? J'espère que Paul Smith représente la réalité. Tu sais, ce n'est pas une entreprise ou une personne qui est basée sur une énorme propagande en termes de budget promotionnel et de publicité. Bien sûr, on doit s'adonner un petit peu à ça, mais comme tu le sais, les grandes entreprises dépensent des millions pour la promotion, mais en tant qu'indépendant, je ne peux pas faire ça. Et donc, avec Paul Smith, tu as quelque chose, je pense, qui est très sympa, et c'est une entreprise avec des débuts très modestes, qui a commencé avec 600 livres d'économie et une petite boutique de 9 mètres carrés ouverte 2 jours par semaine. Et maintenant, on est dans 65 pays et on est toujours en activité. Et la longévité dans la mode, qui est un secteur très capricieux, a toujours été quelque chose dont je suis très fier. Comment tu expliques ta capacité à capturer l'ambiance du moment sur plusieurs décennies, d'avoir pu toucher toutes les générations depuis 50 ans? Oui, c'est une très bonne question parce que je pense que ce n'est pas quelque chose que tu peux apprendre nécessairement. Tu peux accumuler de l'expérience, bien sûr, mais je pense que je suis quelqu'un de très joyeux et très positif. D'où tu tiens ça? De mon père, je pense. Mon père était quelqu'un de très gentil. Il était le genre de personne capable de mettre à l'aise. Quand j'avais 8 ans et qu'on allait visiter une tante et que j'étais timide et accroché à la jambe de mon père parce qu'on devait rencontrer quelqu'un, 10 minutes plus tard, tout le monde discutait et était à l'aise parce que mon père avait cette capacité de briser la glace, comme on dit en anglais. C'est un trait de caractère assez anglais, non? Peut-être, je ne sais pas. Plusieurs ethnies dans le monde ont cette réputation d'être affable. Je passe beaucoup de temps en France et en Italie et j'ai toujours trouvé que la communication était très simple. Et peut-être que c'est juste moi. Je pense que c'est toi. Très bien, alors on va jouer à ce petit jeu. J'ai inscrit quelques mots, parfois des phrases, sur ces cartes que tu peux piocher une par une. Et tu peux y réfléchir et puis approfondir sur ces sujets. Épreuves ou difficultés. J'ai eu la chance de ne pas trop avoir eu d'épreuves difficiles parce que j'ai commencé modestement à l'âge de 21 ans et je n'ai jamais désiré avoir une immense fortune ou une énorme entreprise. Beaucoup de gens ont eu des temps difficiles à cause de malchance ou parfois un accident ou une maladie. Mais je n'ai jamais vraiment eu ce genre d'épreuve. Alors j'espère qu'il ne se cache pas au coin d'une rue. Oui, rien de grave qui pourrait tuer la marque, par exemple. Non, mais je rencontre plein de jeunes designers dans ce bâtiment. Demain, il y en a 20 qui viennent des États-Unis, et avec la fondation Paul Smith, on essaye d'aider les jeunes. Et la différence que j'ai remarquée, c'est que tout le monde est pressé aujourd'hui. Tout le monde veut accélérer sa carrière. Et bien sûr, avec TikTok et Instagram, tout le monde peut se comparer aux autres. Tout le monde dit « Regarde celui-là, il a réussi bien, celui-là, il a décroché ce boulot. » Et on devient envieux et pressé. Alors que quand j'ai commencé, j'étais juste content d'avoir un travail agréable. C'était merveilleux. Et bien sûr, j'ai été très chanceux d'avoir rencontré Pauline, qui est ma femme. Je l'ai rencontrée quand j'avais 21 ans et on est toujours ensemble. Et d'avoir cette sécurité à la maison, d'avoir quelqu'un qui ne voulait pas de jet privé ou d'une vie extravagante. On était toujours heureux. On se disait, quel beau jour, il y a du soleil.
Yeah.
Allons faire un petit show à Paris.
Oh, let's have a little show in Paris, and you know.
A little show.
Yeah, a little show.
That was a little show, actually. Yeah.
Tu as fait un petit show au tout début, d'ailleurs. Oui, le premier défilé était à Paris, rue Vaugirard, dans l'appartement d'un ami au premier étage. C'est toujours le seul défilé où le public devait sonner pour rentrer à l'intérieur. Et il n'y avait que 32 personnes. Il y avait des gens de chez Barney's à New York, il y avait des gens sympas. Barney's, c'est un grand magasin qui n'existe malheureusement plus. Mais que des gens sympas, tous les modèles étaient des amis et la musique était sur une petite cassette. Si tu devais tout recommencer, est-ce que tu ferais tout pareil? Je pense et j'espère qu'il y a une chance pour les gens avec du caractère et du charisme de réussir. Si j'étais un jeune homme maintenant, je ne serais pas très content d'avoir toutes ces grandes marques, pas juste dans la mode, mais aussi dans la technologie et le e-commerce. Il semble y avoir un monopole maintenant. Et je ne pense pas que ce soit juste pour les jeunes designers comme toi et ton podcast, et pour moi aussi, si j'avais 18 ans aujourd'hui et que je devais commencer aujourd'hui. J'espère juste que les gens d'un âge similaire savent que je les respecte parce qu'ils essayent vraiment avec leur petite boutique dans le Marais ou dans l'East End à Londres et que je sais qu'ils travaillent dur.
In the East End of London somewhere, and he's working hard, and you know it would be charming. When I started, I mean the idea of design.
Quand j'ai commencé, le design, c'était d'avoir l'idée dans sa tête et dans son cœur, et espérer que ça plaise à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est marketing, marque. Soutien financier, investisseur. Et puis après tout ça, il y a le vêtement. À la toute fin. Ce qui est très triste. Ouais, exactement. Ouais. Donc tu n'irais pas dans la mode, du coup. Je ne sais pas trop, j'ai d'autres intérêts, comme la photographie. J'ai travaillé comme photographe au début de ma carrière. Bah, d'ailleurs, j'emmène des photographes la semaine prochaine pour un magazine allemand. Mon père était photographe amateur, donc j'ai beaucoup appris de lui à la maison. J'aime beaucoup la photo. J'ai aussi travaillé en tant que styliste et j'ai également conçu des tissus. Oui, donc tu avais différents jobs pour financer ta marque, du coup. Ma boutique était fermée le lundi, mardi, mercredi et jeudi et ouvert le vendredi. Le reste du temps, j'apprenais mon métier et je gagnais de l'argent. Et j'ai eu des boulots très intéressants. J'ai conçu des tissus dans le nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire. Donc j'ai appris comment on produit le tissu. On a un costume qu'on appelle le costume de voyage parce qu'il ne se froisse pas et qu'il est 100% laine. La plupart des costumes qui ne se froissent pas sont faits en laine avec un autre ingrédient comme le plastique, ce qui n'est pas génial. Mais j'avais 24 ans quand j'ai appris tout ça, comment tourner le fil, comment le tisser. Et avec le recul, c'était une très bonne chose à apprendre. Très bien, on en pioche une autre, si ça te va. Oui, c'est un bon jeu, ça. Alors, durabilité. Oui, on prend ça très au sérieux. On est une des seules entreprises de mode en Angleterre qui ont le certificat GOTS, G-O-T-S. Ce qui veut dire qu'on peut retracer l'origine de notre laine et de notre coton. All the way back to where the wool comes from or the cotton comes from. Ce qui est super. Alors, tous mes magasins sont alimentés avec de l'énergie renouvelable. Toute mon entreprise au Royaume-Uni, en fait. Nos emballages sont recyclables. On a pris ça très au sérieux. C'est difficile à faire. Tous ceux qui écoutent savent qu'on ne peut pas être à 100% durable. C'est très difficile parce que, sans t'en rendre compte, tu vas forcément faire quelque chose qui n'est pas très durable. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est faire de notre mieux. Où est-ce que vous produisez principalement ? En Italie, pour la plupart. Et les tissus viennent principalement d'Italie. Au début, le tissu venait du Royaume-Uni. Ce qui est très intéressant, c'est que vos vêtements ne sont pas bon marché, mais assez abordables et fabriqués en Europe. C'est un gros défi, ça. Oui, contrairement aux marques de designers qui cherchent des grosses marges de profit parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour la promotion, nous essayons de garder les prix assez bas. J'aime les gens, pas juste les gens qui ont de l'argent. Comme tu l'as si bien dit, ce n'est pas à bas prix, on ne peut pas parce que les tissus sont de qualité, issus des meilleures exploitations, la laine vient du cachemire, etc. Mais j'aime pouvoir toucher des personnes d'âge et de milieux différents. On en pioche une autre ? Alors très bien, je vais en piocher une plus bas dans le paquet. Elles sont toutes blanches, hein, que tout le monde sache. Routine. Alors j'ai une routine assez stricte pour tout ce qui concerne le début et la fin de la journée, mais le milieu peut être complètement chaotique. Mais ce matin, par exemple, et tous les matins depuis 1992, de 5 à 5h30, je nage au Royal Automobile Club à Pall Mall, à Londres. C'est une très jolie piscine de marbre, très longue. J'arrive ici vers 6h. Je mets un vinyle dans le coin là-bas. Ce matin, c'était John Coltrane, un peu de jazz, mais ça peut être n'importe quoi, hein. J'aime les vinyles parce qu'on peut encore entendre les petits cliquetis. Et après ça, il n'y a pas vraiment de routine parce qu'étant le boss d'une entreprise indépendante, je dois porter plusieurs casquettes. Donc tu es le PDG et le directeur créatif. J'ai un PDG qui s'occupe des finances aussi. Sur la table sur laquelle on est, qui est une très grande table avec 8 places. Alors, cette pièce est remplie d'objets éclectiques venus du monde entier, mais la table est toujours libre. Et plusieurs fois par semaine, mon équipe de designers se réunit autour de la table. Parfois c'est le groupe homme, parfois c'est le groupe femme, les accessoires. Et je peux juste m'installer tranquillement et dire « Ah, vous n'aimez pas cette couleur ?» Et on met de la musique. Donc la pièce est toujours pleine d'énergie. Mais ma routine, c'est juste la natation. Et puis, le samedi après-midi, je vais dans ma boutique dans le quartier de Mayfair, à Londres, qui vend nos vêtements, les œuvres d'art, les meubles, mais aussi nos costumes faits sur mesure. Donc, j'y travaille normalement 2 à 3 heures tous les samedis après-midi. Et j'adore, c'est merveilleux. Pourquoi est-ce important de faire cela? Ce n'est pas important, c'est juste très agréable. Parce que c'est dans le quartier de Mayfair, à côté de l'Académie Royale, tout près des très beaux hôtels, près de Bond Street. Et on reçoit des gens qui viennent de partout dans le monde. Samedi dernier, on a reçu deux messieurs de Norvège et on a reçu une famille venant d'Athènes. Il y avait une famille de cinq, papa, maman et les trois enfants qui sont venus de Rome, parfois des gens de Paris. C'est fantastique de pouvoir recevoir des gens venant d'horizons différents. On reçoit beaucoup d'architectes et de décorateurs et on semble attirer plus les personnes créatives et c'est pourquoi être dans la boutique, c'est très agréable pour moi. Et quelle est ta routine de soirée? Avec ma femme, normalement. On n'est plus très sociaux depuis quelques années. Bien sûr, quand on était plus jeune, on allait aux shows privés, les ouvertures de musées, les nouvelles exhibitions. On était un peu plus sociaux. Et on avait l'habitude de recevoir aussi. Mais maintenant, on préfère profiter de la compagnie l'un de l'autre. On ne cherche pas à faire quelque chose absolument. Bon, par exemple, demain, j'ai un événement dans une de mes boutiques. Jeudi soir, on reçoit la petite fille de Pauline et son copain. Donc, on sort encore, mais pas autant qu'avant. Dans les années 80 et 90, on aimait beaucoup aller à des concerts. Alors, toujours aujourd'hui, mais par exemple, je suis très ami avec Patti Smith. Et donc, quand elle vient ici, je vais la voir. J'étais allé la voir lors de son premier concert en Europe en 1974 au Roundhouse à Londres et je suis allé récemment à son concert au Albert Hall, donc on sort encore mais pas autant qu'avant. Très bien, on en pioche une autre? On y va, alors indépendance. C'est un plaisir pour moi d'être indépendant. C'est beaucoup de travail, surtout maintenant que le monde est devenu un endroit si compliqué. Et après 2 ans de pandémie qui ont été très durs pour toutes les entreprises, mais surtout pour les indépendants, parce que pendant plusieurs mois, il n'y avait aucun marché nulle part. Donc aucune entrée d'argent pendant 16 semaines dans 65 pays, parce que tout était fermé. Ça, c'était dur. Et comme beaucoup d'entreprises, on essaye toujours de s'en remettre, mais un tel choc demande du temps. Et pour nous, les Britanniques, on doit aussi se remettre du Brexit, qu'on ne voulait absolument pas, parce que ça a énormément compliqué le commerce avec d'autres pays. Et bien sûr, la guerre en Ukraine qui nous a obligés à fermer tous nos magasins en Russie parce qu'on n'a plus le droit de commercer avec eux, et c'est normal. Mais c'est magnifique d'être indépendant parce que si tu regardes par là, tu peux voir une peinture de la boutique Rose Vive sur Melrose Avenue à Los Angeles. Et c'est une boutique très populaire. Et même, c'est le mur le plus instagrammé de Californie. La raison pour laquelle je le mentionne, c'est parce que, en tant qu'indépendant, je peux juste décider de peindre ce magasin en rose. Si on faisait partie d'un grand groupe, on aurait discuté de l'image de la marque et est-ce que cette couleur va avec l'identité de la corporation. Donc en tant qu'indépendant, on n'a pas le support d'une autre partie de l'industrie, mais on est plus libre.
Other parts of a business like the big guys,
of course.
But on the other hand, you can just be freer.
Yeah. So do you have a rule?
Donc, est-ce que comme tout le monde, lorsqu'on démarre une entreprise, est-ce que tu réinvestis tout dans l'entreprise ou tu économises et tu mets de côté? Oui, lorsque j'ai démarré dans ma vingtaine, c'était en économisant mes salaires. Je travaillais en tant qu'assistant de magasin et dans mon temps libre, je faisais du freelance. Et petit à petit, j'ai économisé 600 livres, un petit peu d'argent, ce qui est très peu aujourd'hui, hein, c'est le prix d'un dîner dans un restaurant de luxe. Mais je travaillais du lundi au jeudi pour gagner de l'argent et d'une manière ou d'une autre, j'ai survécu. J'ai continué à construire mon entreprise petit à petit et honnêtement, et je faisais ça parce que ça semblait être un bon moyen de gagner sa vie. Je n'ai jamais eu de grand rêve d'avoir un magasin à Londres, par exemple. Il n'y avait pas de destination finale, de vision ou de grand rêve, ce genre de choses. Oui, Pauline et moi, on était juste heureux d'être ensemble. On était, et nous sommes toujours très amoureux et satisfaits de nos vies. Elle m'inspire beaucoup. Mais oui, non, pas de grand rêve. Alors, comment tu expliques que tu aies créé une si grande entreprise? Vous êtes dans 65 pays, je ne sais pas combien d'employés vous avez en tout, et combien vous faites en chiffre d'affaires. Pour une si grande entreprise, il faut une certaine vision et ambition parce que tu aurais juste pu avoir ta petite boutique à Nottingham. Tous ceux qui écoutent vont se dire que je suis devenu fou parce que je n'arrive pas à répondre à cette question, mais tout s'est fait très graduellement. Donc, j'ai commencé dans les années 70 et j'ai continué à travailler en freelance pendant 15 à 20 ans pour gagner de l'argent. Et puis, j'avais une petite collection qu'on a vendue à quelques clients. Et puis, petit à petit, on a grandi, on a lancé un magasin à Londres et puis un second. Et puis, une boutique sur le boulevard Raspail à Paris et puis une autre à New York. Tout s'est fait gentiment, on n'était pas pressé. Et on était solide. Et aussi, mon père m'avait toujours conseillé d'acheter plutôt que de louer si j'en avais les moyens. En France, je sais que c'est plus populaire de louer. Donc, je suis propriétaire de deux bâtiments à Londres, à Mayfair et Covent Garden. Donc, dès que je gagne un peu d'argent, plutôt que de payer de la publicité, j'investis dans un bâtiment.
Advertising.
I bought a building. So far so good.
Yeah.
Je suis propriétaire du bâtiment à Londres et d'un autre à Milan aussi.
Milan, Paris.
Yeah. It's funny because everything's.
C'est drôle parce que tout a l'air très doux, mais gérer une entreprise de ce genre, gérer les employés, tout ça peut devenir un cauchemar. Les finances aussi, et puis on finit par ne plus dormir. Je pense que ma nature m'a aidé. J'ai appris au fil des ans à écouter et à savoir quand parler, à être intéressé et intéressant. Savoir quand écouter est important. Essayer d'adopter le point de vue des autres, c'est important. Alors, je vais utiliser le mot « gagner », mais ce n'est pas très juste parce que je n'aime pas l'idée de gagner ou de perdre. Mais si tu as un point de vue différent du mien et que tu as le courage de le dire au patron, je vais écouter et essayer de voir si je suis d'accord ou pas, ou si on peut trouver un compromis entre mon opinion et ton opinion. Et du coup, c'est gagnant-gagnant. Et ça, ça m'a aidé à garder ce calme dans ce bâtiment au fil des ans.
Calmness in the building over the in the business over the years.
Yeah. Is there any topic you don't?
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu ne négocies pas? Je ne suis pas très bon en finance. Donc j'ai trois personnes très douées basées à Nottingham. Parce qu'on a encore 400 personnes qui y travaillent, que ce soit dans les entrepôts, dans la distribution, les finances, la conception de tissus, de toiles, le sampling. Tout ça est dans ma ville d'origine. Donc cette partie de l'équipe qui m'est vitale est là-bas parce que je ne suis pas très doué. Je suis meilleur en design, pas en marketing, mais en relations publiques. Très bien, piochons une autre carte alors. Regrets. Est-ce que tu as des regrets? Pas vraiment, non. Non, enfin, on fait des erreurs, bien sûr, même si aucune ne me vient à l'esprit tout de suite. Peut-être qu'aujourd'hui, Paul Smith est devenu un peu trop complexe, on a trop de lignes. Et... Bon, c'est pas vraiment un regret, ça, c'est juste quelque chose qui se passe naturellement au fil des ans. Comme beaucoup de marques, on a une ligne principale et une ligne de diffusion. Toutes les marques ont ça à un moment donné, mais la plupart se débarrassent de la seconde marque. Donc, nous, on a toujours la nôtre. Mais je ne pense pas que ce soit un regret. Peut-être l'éducation. J'ai quitté l'école à l'âge de 15 ans, donc je suppose que je regrette de ne pas avoir eu une meilleure éducation, spécialement en termes d'histoire et de géographie. Mais ce n'est pas vraiment un regret, c'est plus, tu sais, dans un monde idéal, quoi. Donc, il n'y a rien que tu changerais. Non, tout a été très bien jusqu'ici. Et c'est effrayant, parce que je n'arrête pas de penser qu'un gros bus rouge londonien va me tomber sur le coin du crâne, parce que chaque jour a été un plaisir. Alors comment tu expliques ta capacité à attirer la chance? On m'a souvent dit que j'ai eu de la chance au Japon, parce qu'on a un très bon business là-bas. Et ma femme me dit souvent, non, vous savez, il a travaillé très dur. Je suis allé une centaine de fois au Japon et quand on a commencé là-bas, beaucoup de jeunes designers qui y étaient invités étaient, à mon avis, trop arrogants. Ils demandaient trop et ils n'ont pas essayé de comprendre les us et coutumes japonaises. Ils se plaignaient du jet lag, de la nourriture, si tu peux le croire. Alors maintenant, on aime tous la nourriture japonaise, mais dans les années 80, personne ne l'avait vraiment expérimenté encore. L'ambiance était très négative. Et bien sûr, ils ont tenu 2 ou 3 ans et puis ils ont fait faillite. Alors que moi, j'étais enthousiaste. J'étais, waouh, on va au Japon et quelqu'un nous paye le ticket. Bon, même si c'était en économie, ce qui est très inconfortable quand on a de longues jambes comme moi, 18 heures de vol, en passant par Anchorage en Alaska, et j'y allais pendant 2 semaines pour travailler très dur. Et c'était un endroit très étranger à l'époque, mais je ne pense pas que c'était de la chance. C'est du gagnant-gagnant. Il s'agissait d'adopter le point de vue des autres, de s'adapter au langage, de ne pas utiliser de l'argot et d'essayer de communiquer clairement et succinctement pour que les gens comprennent que tu apprécies leur éthique de travail. Donc tu es en couple avec ta femme Pauline depuis plus de 50 ans maintenant? Comment tu expliques cette longévité? Réciprocité. La vie, c'est de la réciprocité. Si tu ne fais que prendre les choses ne durent pas. Donc il faut apprendre à écouter, à parler. J'adore faire la vaisselle. Et elle cuisine la plupart du temps. Il s'agit de comprendre les points de vue et les priorités des deux personnes. Ça a toujours été facile pour nous deux.
Mm.
Un peu comme ce que je disais sur le Japon, si on part avec l'idée qu'on est un grand designer européen avec sa façon immuable de faire les choses, on ne va probablement pas durer plus de 3 ans. Alors que si on part avec l'idée que les Japonais sont des gens intelligents, avec une façon intéressante de travailler, et savoir prendre une grande inspiration, écouter, faire une pause et essayer d'absorber leurs habitudes, essayer de combiner nos méthodes aux leurs. Alors seulement là, on a une chance d'avoir du succès. Merci. Alors on en pioche une autre ? C'est parti. Alors c'est le roi de cœur. Non, je rigole. Oula, elle est longue celle-là. Comment continuer sur le long terme ? Alors la réponse, c'est d'aimer la vie, hein. Je veux dire, on est sur Terre pour un temps si court, surtout à l'époque où on enregistre ce podcast. Bon, j'espère que les choses vont changer dans les années à venir, mais il y a tellement de choses tragiques qui se passent dans le monde aujourd'hui qu'il faut savoir être reconnaissant d'avoir la santé et de pouvoir faire de grandes choses et d'apprécier les plaisirs quotidiens. On a tous été tellement balayés par les réseaux sociaux, malheureusement, que les choses de la vie quotidienne qui devraient être agréables ne le sont plus. Alors, mais cette interview, par exemple, et cette rencontre, on parle d'amitié, d'amour, de camaraderie, de conversation, de lecture, de films, tellement de bonnes choses. Comment tu gères ton compte Instagram personnellement ? Parce que tu as un compte personnel sur lequel tu partages des choses. Alors avant, je postais tous les jours sur mon Instagram, qui est toujours là. Il y en a un qui s'appelle Paul Smith Design, je crois, et un juste Paul Smith. Oui, et un autre qui s'appelle Paul Smith Foundation. Tout à fait. Le Paul Smith, j'avais l'habitude de poster tous les jours parce que dans ce bureau, il y a toujours des choses à faire. Et en tant que photographe amateur, il y a toujours des choses inhabituelles qui me sautaient aux yeux. Mais c'est devenu trop difficile tous les jours parce que je dois m'occuper de gérer le business. Donc, je poste de temps en temps et les gens semblent apprécier parce que je ne poste pas beaucoup de vêtements. C'est toujours des choses du genre un arbre ou un ciel ensoleillé. Qu'est-ce qui fait une bonne photo ? Je pense qu'il ne faut pas être trop complaisant dans cette activité. Je suis toujours choqué par le narcissisme qui règne sur ces plateformes, les selfies, les photos de plat. Je trouve ça fou, la fascination que les gens ont pour ça, c'est bizarre. Je n'ai rien contre, hein. Je trouve ça juste bizarre. Une bonne photo pour moi, c'est une situation, un très beau nuage avec un rayon de soleil qui le traverse. Je suis très fan de Cartier-Bresson et Henri Lartigue et les photographies de mon père. Ils capturaient ce que mon père appelait les moments volés. Donc quelqu'un qui se touche le nez ou quelqu'un qui met son bras autour de sa copine ou même le chien en train de pisser sur un lampadaire. Ce sont des moments cool et j'adore ça. Qu'est-ce qui attire ton œil ? La bizarrerie, je pense. Les choses un peu irrévérencieuses. J'incluais beaucoup ça dans mes vêtements à l'époque, malheureusement moins maintenant, mais mélangeais les mauvaises choses intentionnellement. Mais ça a été tellement copié maintenant par tellement de gens. Tu sais, comme un très beau costume qui s'ouvre sur une doublure inhabituelle ou une boutonnière d'une couleur différente. Toujours l'idée d'un classique revisité qui a maintenant été imité par tellement de gens. Je pense donc l'irrévérence. Et j'adore le kitsch. J'aime tout ce qui est bizarre ou de mauvais goût, surtout si c'est juxtaposé à quelque chose de très beau ou de bizarre. J'adore ça. Parfait. Alors, on en pioche une autre ? Curiosité, alors on vient d'aborder ça en quelque sorte. Comment tu restes curieux alors ? J'adore la curiosité. J'ai travaillé sur l'exhibition Picasso à Paris. J'ai été invité en tant que co-conservateur et directeur artistique de toute l'exhibition au musée Picasso.
Invited to co-curate and art direct the entire exhibition at the Picasso Museum in Paris. And
et ce que j'ai appris, c'est que Picasso, bon, je ne me compare pas à lui, hein, pas du tout. Mais il vivait sa vie avec beaucoup de curiosité. Et je me retrouve là-dedans. Beaucoup de gens, quand ils voient cette pièce avec ses jouets, ses livres et ses choses inhabituelles, pensent que c'est un peu juvénile, mais je le vois plus comme étant enfantin. L'idée, c'est d'être curieux des choix de fabrication, pourquoi ils ont mis ça sur cette couverture ou pourquoi ce bois. Et ça, c'est la curiosité. Et ça veut aussi dire qu'on peut faire les choses de façon latérale. Au lieu de suivre les sentiers battus, on peut détourner à gauche ou à droite. Et ce que j'ai remarqué avec Picasso, c'est qu'il a toujours été très ouvert sur l'influence que Cézanne a eue sur lui. Parce qu'il a commencé à peindre de façon très différente de quand il avait commencé en tant qu'artiste. Et il était très ouvert là-dessus. Et puis quand il va à Valoris, il s'intéresse à la céramique et change son style grâce à sa curiosité. Et ça, ça me plaît beaucoup. Une des cartes à l'intérieur est être soi-même. Alors, comment toi, tu... Alors, tu veux dire avoir la confiance d'être soi-même. Exactement. Alors, d'où ça te vient et comment tu le cultives ? Alors, tout a commencé avec le fait que ma petite boutique à Nottingham faisait 9 mètres carrés. Il y avait des habits que Pauline et moi avions fabriqués physiquement. Il y avait des habits de chez Kenzo. On était le premier magasin en Angleterre à en vendre parce que je connaissais très bien Monsieur Kenzo. Des Margaret Howell, des Levi 501 qu'on ne trouvait nulle part en Angleterre. Donc, il y avait cette petite boutique dans ma ville natale et quelque part, je savais que la boutique était trop spéciale pour une ville provinciale. Et par chance, j'ai assisté à une conférence d'un homme, Edouard de Bono, qui était un penseur latéral. Et il a dit plusieurs choses intéressantes, mais notamment qu'on ne changeait jamais le travail, mais que c'est le travail qui nous changeait. Et je me suis dit et j'ai pensé en quoi cela me touche. Et j'ai réalisé que ma petite boutique était trop spéciale pour ma ville d'origine. Et que donc, si je voulais gagner ma vie et payer mon loyer avec cette boutique, le travail allait me changer. Il aurait fallu que je fasse des habits plus normaux. Et je ne serais pas assis en face de toi parce que la boutique aurait sûrement fermé. J'aurais été sûrement dans un secteur très différent. Mais parce que je n'ai pas laissé le monde, la pression de la mode et Instagram me changer, que j'ai réussi à garder les pieds sur terre, ça m'a fait réaliser que ce que je faisais était bien. Tant qu'on ne devient pas trop égotiste, tant qu'on reste modeste, on peut avoir la confiance d'être soi-même et d'être humble. Mais j'ai appris ça au tout début de ma carrière. C'est une bonne chose de dire à tes auditeurs qu'on ne change pas le travail, c'est le travail qui nous change. C'est très dur d'entrer dans le monde du commerce et de ne pas être changé par l'entreprise pour laquelle on travaille.
and not be changed by the company you're working yeah. for.
Or would you apply it to the world?
Comment on pourrait l'appliquer au monde du podcast? Pour un podcast, alors je crois que tu le fais déjà avec assez de succès, mais trouver une niche et essayer d'être présent lors de la naissance des personnes créatives, celles qui écrivent les chansons et designent les vêtements, par exemple.
Or design the clothes rather than people that sell the songs or sell the clothes. So try to get at the birth of creative people, for instance.
Creativity,
it could be that.
Yeah, definitely. Let's take another one.
Alors prenons une autre carte.
A mantra,
philosophy. Oui, c'est un mantra, une philosophie. Quelle est la tienne?
Well, actually, I think,
je pense que chaque jour est un recommencement. On peut avoir des jours difficiles, tes auditeurs aussi, pour n'importe quelle raison. Mais il faut savoir prendre une grande inspiration, aller se coucher, prendre le temps d'une pause, parce que chaque jour est un recommencement. Demain sera, on espère, un jour meilleur. Alors on peut aller se coucher ou même prendre un café en terrasse, regarder le monde vivre, repenser ses idées et essayer de trouver une nouvelle direction. Tu dors combien d'heures par nuit? Probablement 6 ou 7 heures par nuit. Je n'aime pas trop dormir. Non, parce que j'aime trop la vie. Je trouve que c'est un peu une perte de temps. Donc tu fais toujours quelque chose, tu ne te reposes jamais. Non, non, pas vraiment. Le week-end, je nage, je prends le petit déjeuner avec ma femme le samedi, et puis on fait quelques courses, je pars au travail pendant quelques heures, et puis je passe la soirée avec ma femme. On est toujours occupé. Et je porte un costume quasiment tous les jours. Même pendant le Covid, j'étais dans ce bâtiment tout seul pendant 16 semaines, sur cette chaise, près du téléphone, à essayer de garder l'entreprise en vie. Mais je portais un costume tous les jours. J'adore porter un costume.
Ah,
celui-là, on l'a fait déjà, être soi-même. Oui, celle-là, c'est public large. On en a déjà un peu parlé. Comment toucher tout le monde? Tout le monde connaît Paul Smith. Tout le monde a porté du Paul Smith un jour dans sa vie. Même mes parents connaissent Paul Smith. Oh, c'est sympa ça. Alors on peut dire bonjour à papa et maman.
Hello, papa et maman.
Alors oui, pour revenir sur mon père, il est décédé à l'âge de 92 ans. Et même à cet âge, il avait beaucoup d'amis jeunes. Ça en dit beaucoup sur son caractère que les jeunes souhaitaient passer du temps avec lui. Parce qu'il adorait la photographie. Il avait toujours des photos à montrer et donc il lançait toujours des conversations. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous conseille toujours de trouver notre niche, d'avoir une personnalité forte, de résoudre un problème, une douleur, et ton moyen de faire tout ça, c'est de parler à tout le monde. Mais peut-être tu es un peu plus marketing. Je pense que être dans la boutique le samedi, par exemple, les gens sont juste très contents et stupéfaits. Ils me disent qu'ils sont très heureux de me voir dans la boutique. Et je leur dis que c'est parce que j'aime mon travail et que j'aime rencontrer les gens. Ah, et puis ils me répondent, ah, le meilleur vendeur. Ce n'est pas que je suis le meilleur vendeur, j'ai juste une énergie et un enthousiasme. Je vais dire, tiens, ah, ce tissu vient de Biella dans le nord de l'Italie, ou ça, ça a été fait main en Irlande. J'ai toutes ces petites informations. Et je pense que c'est parce que j'ai toute cette petite passion. J'ai des goûts très éclectiques. On aurait pu parler tout ce podcast d'architecture ou d'art. J'aurais pu parler du Corbusier ou de Carla Scarpa, de la région de Venise, un architecte que j'adore. Ou alors Frank Lloyd Wright des États-Unis. Je m'intéresse à pas mal de choses. J'aurais pu parler du Caravage ou de la Croix ou David Hockney. Pas parce que je suis un expert, mais parce que je m'y intéresse beaucoup. Je pense que c'est pour cela que j'ai réussi à toucher un public un peu plus large. On en pioche une autre, on essaye de toutes les faire. On se débrouille bien, hein. Alors, étoile polaire. Oui, quel est ta North Star Metric? C'est un terme très start-up. On parle d'inspiration? Oui, inspiration, ça peut être la finance ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Alors, Pauline a été une inspiration constante. Hein. Elle lit beaucoup. Elle lit beaucoup de Proust, par exemple. Elle a un esprit très intéressant et éclectique. Elle est allée au Royal College of Art en tant que designer de mode. Elle m'a tout appris sur la conception de beaux vêtements magnifiques. Mais plus tard dans sa scolarité, elle est devenue peintre et une artiste. Elle a toujours été une inspiration pour moi et elle continue d'être inarrêtable. L'inarrêtable Paul. Oui, ça c'est vrai. Mais tu es inarrêtable, tu as 77 ans, tu ne vas jamais t'arrêter. Alors j'espère bien que non, si je garde la santé et si l'équipe pense que je m'engage sur une mauvaise route, bah, je m'arrêterai. Mais pour le moment, je les écoute et je le fais bien. Et j'écoute leur point de vue et leur modernité parce que, bien sûr, ils sont plus jeunes et que leurs références sont différentes. Leurs goûts musicaux sont différents et c'est important. Beaucoup de designers, pas juste dans la mode, mais en général, trouvent leur niche, leur style, et n'y dévient jamais. Et éventuellement, ils tombent en désuétude parce que leur style devient démodé. Alors que moi, je suis capable de changer et de penser latéralement et de faire les choses différemment. Est-ce que tu prépares un Paul Smith après Paul Smith? J'ai deux personnes dans le business avec qui je suis très à l'aise. Je pense que ça va aller. Si on survit à la folie du monde moderne, bien sûr. Être audacieux? Oui, l'audace, c'est le concept de tout ce podcast, mais on en a déjà parlé. Je pense que oui, mais je pense que être audacieux, c'est avoir confiance en ses idées. Mais elles doivent être sensées et non pas ridicules. Il faut utiliser son expérience et ce qu'on a appris pendant des années et ne pas être snob et penser qu'on sait mieux que tout le monde. Beaucoup de gens ont trop confiance en eux. Et je pense que la cupidité est un énorme problème dans ce monde. On se bat pour conquérir du territoire, on prend des jobs, des petits amis ou des petits copains. Donc c'est toujours bien de garder les pieds sur terre. Ok, ah voilà, le moment des rayures. Donc, les rayures, comme tu le sais, sont très populaires, mais c'est totalement par chance, parce que dans les années 90, mon business avait grandi un petit peu, et je pouvais designer mes tissus moi-même. Avant, on achetait les designs déjà existants à Première Vision ou au Grand Marché en Italie ou à Paris.
Italy, and then you'd go and you'd select fabric.
Mais dans les années 90, j'avais assez de commandes pour pouvoir designer mes propres tissus. On a commencé avec des rayures, avec beaucoup de couleurs. On a fait une chemise pour la collection de printemps et elle a eu beaucoup de succès. Et puis en hiver, je pense que c'était à Harrods, dans le grand magasin, ils sont venus me voir pour me demander où étaient les rayures. Et j'ai répondu, non, c'était juste pour le printemps, ça. Et il dit, non, on en veut encore. Bon, ben, j'ai dit, ok, et maintenant, c'est 30 ans plus tard, et c'est ma marque de fabrique, ça n'a pas été planifié du tout, mais c'était par chance, vraiment. Mais le lapin et l'âne, du coup Oui, bah, l'âne rayé, le zèbre, tout ça, c'était juste du jeu, c'était pour une saison. Et puis ça revenait tous les ans, et puis quelques années plus tard, j'ai dit que les lapins me portaient chance, et du coup aujourd'hui j'en reçois 6 à 20 par semaine de partout dans le monde. Si tu regardes là, tu verras des lapins partout. Hein. J'aurais dû dire les diamants, mais j'ai dit lapin. Quelle est la clé pour séduire les gens à acheter un vêtement ? Le point de vue, tu veux dire ? Oui, je ne sais pas trop comment le dire. Je pense que le classique revisité est un terme surutilisé. Mais ça veut dire en fait, ce qui est intéressant avec la France, à la fin des années 70, j'ai commencé à vendre en France et je cherchais des moyens de vendre aux Français. Et je me souviens de gens comme Jean-Luc Godard et tous ces réalisateurs qui achetaient du Paul Smith et du Pierre Bourges et du Saint-Laurent. Mais ils achetaient du Paul Smith parce que c'était très portable. Mais il y avait toujours un point de vue, un petit secret. Je pense que c'est ça la raison principale. Quel héritage veux-tu laisser derrière toi ? J'espère que mon héritage soit de montrer qu'on peut avoir une entreprise en gardant ses principes, qu'on n'ait pas besoin d'avoir une grande entreprise ou une grande institution financière, et qu'on peut rester humble et amical et une bonne personne.
Fantastique.
Merci, Paul. Une dernière question. Qui voudrais-tu entendre dans ce podcast ? Eh bien, tous ceux qui veulent être créatifs dans leur travail dans le futur. Et aussi des gens qui veulent comprendre comment les choses fonctionnent. Je suis très intéressé par les jeunes. J'ai souvent des jeunes écoliers qui sont en sortie scolaire dans le bâtiment. Donc j'espère qu'eux aussi voudront écouter. Mais merci beaucoup, c'était une interview très agréable. Merci beaucoup, prends soin de toi, bye.
Je m'appelle Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. The Bold Way, c'est aussi une newsletter dans laquelle je vous partage un email par semaine rempli de contenu exclusif, d'idées innovantes et de ressources précieuses pour vous aider à surmonter vos défis et tracer votre propre chemin. Inscrivez-vous dans les notes de cet épisode ou sur theboldway.fr. Last but not least, la meilleure manière de m'aider est de partager ce podcast autour de vous. Si cet épisode vous a aidé ou touché, partagez-le à vos proches et à vos amis. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.
Just to make a test, what did you have for breakfast this morning?
Yeah. I had some toast. English man, toast and tea. Very English.
Okay, of course. Yeah. It's working very well. Perfect. Let's do that.